une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, une nouvelle semaine s'est écoulée depuis notre dernier rendez-vous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau voyage au cœur de 7 jours d'événements avec bien sûr les reportages de la rédaction. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio RFI.fr. Cette semaine, notre invitée est une voyageuse, une photographe qui a vécu des années durant en Afghanistan et qui connaît bien aussi l'Inde et le Pakistan. Elle s'appelle Oriane Zera, elle vient d'écrire « Chroniques indiennes », un livre publié aux éditions Les Perséides. Bonjour Oriane Zera.
Bonjour.
Merci de profiter d'une étape à Paris pour venir nous voir. Parce que quand je dis que vous avez vécu en Afghanistan, en Inde et au Pakistan, je devrais dire que vous continuez à y vivre aussi un petit peu.
Oui, je suis de passage à Paris. Je suis toujours de passage d'ailleurs à Paris. Je ne reste pas.
Et pourquoi cette fascination pour cette région du monde ?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je n'ai pas la réponse. Et je me suis toujours dit que le jour où je trouverais la réponse, peut-être que soit j'arrêterais de voyager, soit je changerais de destination. C'est une région qui me touche, qui m'émeut, qui me prend au corps, au cœur.
Alors c'est pour ça d'ailleurs que vous la photographiez très bien, cette région. Vous promenez toujours avec un appareil photo ?
Oui, je me promène toujours avec un appareil photo et un crayon, et avec mes yeux pour voir.
Oui, d'abord.
Oui, parce que je me considère vraiment comme d'abord une voyageuse.
Et c'est justement parce que vous êtes une voyageuse que j'ai voulu vous inviter dans cette émission qui revient sur 7 jours d'actualité dans le monde, parce que votre regard est un regard forcément différent d'un regard parisien, parce que c'est vrai que vous avez une ouverture d'esprit qui est intéressante, et votre vie en Afghanistan vous a sans doute apporté beaucoup de choses aussi.
Oui.
Entre 2011 et 2014.
Oui. Oui, c'est un pays qui m'a énormément apporté. Enfin, comme les autres pays dans lesquels je suis passée, mais c'est vrai que l'Afghanistan m'a énormément donné.
Ce sont des régions qui sont au cœur de l'actualité, justement, entre le Pakistan, dont on va dire un mot tout à l'heure, avec un attentat, et l'Afghanistan, évidemment, où la guerre continue, il faut le souligner.
Oui, ouais. Malheureusement, c'est des régions qui sont au cœur de l'actualité, et pas pour des raisons toujours très... Enfin, rarement pour des raisons gaies.
Est-ce que vous reconnaissez l'Afghanistan que l'on décrit dans les journaux par rapport à celui que vous connaissez ?
C'est une réalité de l'Afghanistan, mais il y a tellement d'autres choses à côté. Mais c'est une réalité. Enfin, malheureusement, oui, les attentats. Enfin, il y a des attentats, il y a des problèmes avec les réfugiés. Donc oui, c'est une des réalités du pays.
Alors là, il y a ces chroniques indiennes. On s'était vu il y a 4 ans dans la même émission. D'ailleurs, vous aviez fait un livre sur le Pakistan. C'est des flâneries au Pakistan. Non seulement vous vous promenez avec un appareil photo, mais aussi avec un bloc-notes.
Oui, j'écris. J'ai même plusieurs bloc-notes parce que je suis pas très très organisée. Donc j'ai des petits carnets sur lesquels je griffonne. Et à la fin, je rassemble mes idées et mes écrits et j'essaye de les mettre en ordre.
Oriane Zera, on va quitter un instant l'Inde et voyager vers d'autres latitudes et partir tout de suite par exemple pour Strasbourg où le Parlement européen a voté pour le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Correspondance d'Anastasia Becchio, mercredi.
Comme attendu, la droite, les conservateurs, les libéraux ont voté pour cet accord économique et commercial global. Les sociaux-démocrates, eux, en sortent divisés. Une majorité a voté pour, mais les Français, les Belges, les Néerlandais, les Polonais se sont exprimés contre. L'accord a cristallisé l'opposition des partis de la gauche unitaire, des Verts, de l'extrême droite et de militants altermondialistes et écologistes qui se mobilisent toute la journée à Strasbourg. Ils pointent des risques pour l'environnement, la santé, l'emploi ou encore l'agriculture. Même les défenseurs du texte à droite ne semblaient pas tout à fait sereins quant à l'avenir de la filière bovine, qui serait soumise à rude concurrence, et ont demandé des garanties à la commissaire au commerce Cecilia Malmström, présente lors des débats ce matin. Mais les bénéfices attendus ont fait pencher la balance. Meilleur accès au marché public canadien, reconnaissance d'une centaine d'indications géographiques protégées. Les tarifs douaniers doivent rapidement disparaître sur près de 99% des marchandises. L'accord doit entrer en application à partir du mois prochain, mais de manière provisoire, le temps d'être ratifié par l'ensemble des parlements nationaux et régionaux de l'UE, 38 au total. On se souvient du blocage du Parlement wallon, autant dire que le CETA risque encore d'être chahuté.
Partons pour les États-Unis maintenant pour évoquer la difficulté qu'a Donald Trump à composer une équipe gouvernementale que l'on va qualifier d'irréprochable. Les explications mercredi d'Anne-Marie Capomaccio.
Le personnel politique américain le sait, tout candidat ministre est l'objet d'une enquête parlementaire. C'est pourquoi, avant de rendre un nom public, la Maison-Blanche mène en principe sa propre investigation. Cela n'a manifestement pas été le cas dans le dossier Pusdeur, milliardaire propriétaire d'une chaîne de restauration. Les démocrates étaient inquiets sur ses positions anti-salaire minimum et anti-syndicat. Ils ont ensuite découvert que l'homme avait employé une femme de ménage sans papier, puis que sa première épouse avait témoigné dans une émission populaire sur les violences conjugales qu'elle avait subies. Certes, cette femme a récemment retiré ses propos, mais le mal était fait. Aux démocrates se sont ajoutés les féministes et des républicains de plus en plus nombreux. Il devenait impossible d'obtenir un vote pour le nommer. Ce retrait est un coup très dur pour la Maison-Blanche, une semaine catastrophique pour Donald Trump, un décret immigration bloqué en justice, des fuites dans la presse et la démission du conseiller à la sécurité nationale qui a menti sur ses contacts avec la Russie. Enfin, le retrait de ce ministre, Donald Trump avait promis de purger le Marigot. Le Marigot semble résister.
Et nous reviendrons aux États-Unis dans quelques minutes. Avant de vous retrouver, Oriane Zera, partons pour un pays que vous connaissez bien, donc l'Afghanistan, pour faire un point sur la situation des réfugiés de ce pays au Pakistan. Des réfugiés expulsés de force, selon Human Rights Watch, à Kaboul lundi, Sonia Ghezali.
Menacés d'être rapatriés pendant l'hiver, victimes de raquettes, de détentions arbitraires et de raids nocturnes par la police, le quotidien de certains réfugiés afghans au Pakistan s'est détérioré ces dernières années et plus particulièrement ces derniers mois. C'est ce que révèle le Human Rights Watch dans son dernier rapport accompagné de témoignages de réfugiés expulsés comme celui de cet homme.
Au Pakistan, ils nous rendaient la vie dure. Nous n'en pouvions plus. On ne pouvait pas travailler, on ne trouvait pas d'emploi. Et si on gagnait un peu d'argent, la police nous le prenait. La situation à Kunduz est très mauvaise. Il y a une guerre là-bas. Les gens n'ont pas d'eau, ni de nourriture et pas d'endroit pour vivre en sécurité. Et pourtant, on nous oblige à y retourner.
L'Organisation de défense des droits de l'homme appelle les autorités pakistanaises à mettre fin à ces pratiques et met également en cause le rôle du Haut Commissariat aux réfugiés qui n'a jamais dénoncé ces comportements. Selon Human Rights Watch, en doublant à $400 par personne l'aide financière accordée aux réfugiés afghans qui acceptent de rentrer chez eux, l'organisme de l'ONU s'est même rendu coupable de complicité avec le gouvernement pakistanais. Dans un courrier adressé à Human Rights Watch, l'HCR a tenu à réfuter fermement l'affirmation selon laquelle, je cite, « l'augmentation de l'aide financière constitue une promotion du rapatriement ».
Suite d'une semaine d'actualité entre l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan, avec notre invité Oriane Zera qui vient d'écrire des chroniques indiennes aux éditions Les Perséides. D'abord cette question des réfugiés afghans au Pakistan. Ce sont des réfugiés qui sont parfois dans ce pays depuis 30 ans.
Qui ne sont jamais allés en Afghanistan. Donc ils sont nés afghans parce qu'ils n'ont pas la nationalité pakistanaise, mais ils sont pakistanais de cœur, souvent. Ils sont afghans parce qu'ils suivent les traditions, enfin par la langue, ils ont eu la transmission de la langue et les traditions par leurs parents et par la famille, mais ils sont nés au Pakistan, ils ont grandi au Pakistan et souvent ils sont envoyés dans un pays qu'ils ne connaissent pas et un pays en plein chaos en plus.
J'imagine que vous en avez rencontré.
J'ai un ami d'ailleurs, Khanara, qui a été réfugié au Pakistan pendant des années et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a raconté comment il s'était fait réveiller en pleine nuit, lui et sa famille, pour un contrôle et pas un contrôle en douceur.
Ah, mais on a du mal à comprendre pourquoi il y a une telle brutalité tout d'un coup, dans la mesure où vous venez de le dire, Oriane, ces réfugiés sont là depuis très longtemps.
Je crois qu'il y a eu un vrai durcissement après l'attaque de l'école à Peshawar, il y a 2 ans. Et que ça n'a fait que qu'empirer.
Alors, il faut rappeler que cela concerne, d'après Human Rights Watch, 600 000 personnes.
Oui, c'est énorme. Il y a eu 3 millions, il me semble, 3 millions de réfugiés afghans au Pakistan.
Oui. Alors on parlait aussi, il y a un instant, de Donald Trump. Une anecdote qu'il faut que vous racontiez, qui montre à quel point vous voyagez à propos de son élection.
Ah oui, j'ai appris en fait l'élection de Donald Trump. J'étais en plein milieu de la forêt amazonienne, dans un endroit qui s'appelle Seu do Mapia, où il faut prendre un bateau pendant une petite barque pendant au moins 9 heures pour y arriver. Et il y a quand même la radio, la télé qui fonctionne chez certains. Et c'est comme ça que j'ai appris que Donald Trump avait été élu. Et j'ai été affligée.
Il faut expliquer pourquoi vous étiez au Brésil, Oriane Zera. C'était là aussi pour un reportage.
Oui, alors après, j'ai eu envie en fait de changer de continent et d'hémisphère.
Oui, je constate, effectivement, entre le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan et le Brésil.
Ah, c'était le jour et la nuit. D'ailleurs, c'était le jour au Brésil pendant que c'était la nuit au Pakistan.
Ouais.
Et c'était bien. J'ai été prendre l'air. J'ai été prendre l'air au Brésil et je suis partie en Amazonie faire un reportage sur l'utilisation de l'ayahuasca, qui est un breuvage qui est préparé par les chamans indiens, enfin par les indiens, par les indigènes depuis des siècles, mmh. et qui est utilisé comme sacrement dans 3 religions syncrétiques qui mêlent le catholicisme, l'animisme et l'ubanda, qui est une religion d'origine africaine. Donc je suis partie faire un reportage sur les origines de ces religions.
Une semaine d'actualité.
Et nous aussi, nous voyageons à notre manière, Oriane Zera. Nous allons repartir pour les États-Unis. La rencontre Trump-Netanyahou, le premier ministre israélien à la Maison-Blanche, mercredi, était très attendue. C'était la première. Alors, retour à Washington, Anne-Marie Capomaccio.
Les deux hommes s'apprécient, ils n'ont eu de cesse de le montrer à la presse et au monde. Le climat a changé pour Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche. Le climat et le discours du président américain, fini les propos de Barack Obama ou George Bush, un peu moralisateurs sur la nécessité de prendre en compte les aspirations des Palestiniens. Une solution à deux États n'est plus une exigence.
Je pense à deux États ou un État, et je préfère la solution que les deux parties choisissent. Je serai satisfait avec ce que les deux parties préfèrent.
Le rire de Benjamin Netanyahou pendant que Donald Trump s'exprime est éloquent. Certes, le président américain demande sans précision à son invité de ralentir sur les colonies. Une phrase qui peut servir les intérêts de politique intérieure du premier ministre israélien. Mais la complicité est évidente. Les épouses des deux leaders et la fille de Donald Trump étaient au premier rang, aux côtés de son époux Jared Kushner, dont la famille est proche des Netanyahou.
Jared, est-ce que je peux dire depuis quand je te connais ? Il n'a jamais été petit, il a toujours été grand pour son âge.
Jared Kushner sera peut-être en charge du dossier israélo-palestinien à la Maison-Blanche. C'est lui qui a préparé cette rencontre et qui, dit-on, a demandé un report du déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem. Une petite concession pour tenter de ne pas hypothéquer l'avenir.
Restons aux États-Unis un instant. Des magasins et restaurants sont restés fermés jeudi à Washington, New York, Chicago et d'autres villes à l'appel d'une journée sans immigrés. L'initiative visait à protester contre les politiques anti-immigration de Donald Trump et montrer aussi le poids des immigrés dans l'économie américaine. Reportage par exemple à New York de Marie Bourreau.
Sur la devanture du restaurant, une simple note. On aime les États-Unis, mais le gouvernement, lui, ne nous aime pas. Réouverture demain. Dans ce quartier de Staten Island à New York, cette journée sans immigrés a un air de dimanche un peu triste. Des rues entières de commerce aux rideaux de fer tirés et pas un chat. Car c'est plus tard dans la soirée que les immigrés ont fait entendre leur voix au cri de « Nous sommes là, on reste ». Parmi eux, Juanessa, mexicaine et mère de 3 enfants américains.
Il faut que les Américains se rendent compte que les immigrants viennent nettoyer les hôtels, faire la cuisine, faire le ménage, s'occuper des enfants. On fait tout ce qu'ils ne veulent pas faire.
Femme de chambre depuis 30 ans à New York, exceptionnellement, elle n'est pas allée travailler hier pour montrer que les immigrés sont indispensables à la bonne marche du pays.
Le pays et l'économie s'effondreraient.
Nous gagnons notre argent avec dignité, rappelle-t-elle encore. Ces lois, ce mur, sont indignes de notre contribution au pays.
Partons pour l'Inde maintenant, Oriane Zera, qui est plus que jamais le champion du monde des lanceurs de satellites. Mercredi, une fusée, une seule, a mis en orbite 104 satellites. New Delhi, Sébastien Farsi. 2, 1,
0, plus 1.
Il aura fallu seulement 17 minutes à la fusée d'environ 700 kg pour s'élever hors de l'atmosphère et commencer à déployer ses 104 satellites et 11 minutes de plus pour qu'ils soient tous lâchés dans l'espace. L'agence publique spatiale indienne ISRO pulvérise ainsi le record des Russes, principaux concurrents dans le placement de satellites de basse altitude. Elle a aussi ironiquement réuni dans cette fusée les engins de pays ennemis, Israël et les Émirats arabes unis. 88 autres de ses orbiteurs appartiennent à une compagnie américaine spécialisée dans l'imagerie terrestre. Les Indiens ont lancé maintenant plus de satellites étrangers que locaux, ce qui montre l'attrait de cette agence. Son avantage est d'abord d'être entièrement public, ce qui permet de réduire les coûts, puis de créer des lanceurs plus simples et légers, capables de réaliser quasiment les mêmes prouesses que leurs cousins occidentaux pour un prix bien moindre. Il y a 3 ans, l'ISRO a ainsi réussi à placer une sonde autour de Mars pour 1/10 du coût de la même mission menée par la NASA américaine.
Oriane Zera, vous reconnaissez l'ambiance de l'Inde à travers cette évocation proposée par Vanessa Ravensky? C'est l'ambiance de rue, cette musique?
Oui, tout à fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je suis en train de me dire, la semaine prochaine j'y serai en vrai, mais j'y suis déjà un peu aujourd'hui.
L'Inde, grande puissance, on le sait, on en parle suffisamment sur cette antenne, on en parlera ce week-end avec Marie-France Chatin sur le plan géopolitique, mais l'Inde qui est aussi un pays d'une sensualité incroyable, dans vos chroniques indiennes, vous nous proposez une promenade dans cette Inde, entre les restaurants, les centres de yoga, c'est un pays sensuel.
Oui, c'est un pays qui met en émoi tous les sens. Que ça soit l'ouïe, le regard, le goût, c'est un pays qui prend. Et voilà, comme je suis photographe, c'est un peu comme des clichés, mais des clichés en mots. C'est un pays qui m'a d'abord fascinée, qui me fascine encore, et puis que j'ai aimé inconditionnellement, que j'ai appris aussi à détester, enfin à moins aimer sur certains
points.
Oui,
parce qu'il y a quelques textes qui montrent une Inde qui n'est pas très attirante non plus, hein.
Non, c'est parce que en fait, je voulais dépasser le stade de ce regard qu'on peut avoir sur l'Inde, pays. Alors c'est une réalité, pays de couleurs, pays d'odeurs, de senteurs, de lumière, de paix, mais en fait pas tant que ça. On voit l'Inde comme le pays du yoga, de spiritualité, le pays des saris, où évidemment il y a l'autre côté, le pays de la misère totale. Mais j'ai voulu, à travers ces nouvelles, donner un regard plus nuancé.
Un pays qui est dirigé par un dirigeant, par un homme politique très nationaliste. Hein.
Pas très nuancé, oui. Effectivement.
Alors, il faut revenir aussi sur un autre sujet d'actualité qui est tragique, c'est un attentat au Pakistan dans un sanctuaire soufi que vous connaissez. Il y a plus de 70 morts, hein. Revendiqué par l'État islamique.
Oui, c'est un sanctuaire que j'ai visité, j'avais fait un périple sur les traces du soufisme qui m'a conduit en fait dans tous les lieux soufis du Pakistan. Et c'est le sanctuaire d'un saint qui est très très connu. D'ailleurs, Nusrat Fateh Ali Khan a chanté un kavali du nom de ce saint soufi.
Un lieu de pèlerinage très populaire.
Très populaire, où des gens de tout le pays viennent pour espérer ou pour prier, pour demander la guérison d'un proche, pour espérer un miracle. Et c'est des gens qui ont mis des jours et des jours pour venir et qui viennent trouver la paix ou en tout cas l'espoir. Et voilà.
Oriane Zera, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
L'atelier des médias.
Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction. Notre invitée cette semaine est Oriane Zera, voyageuse, photographe, qui a vécu plusieurs années en Afghanistan, au Pakistan et en Inde. En Inde, où elle repart d'ailleurs dans quelques jours. Elle vient d'écrire Chroniques indiennes aux éditions Les Perséides. Comme d'habitude, nous allons partir pour l'Afrique dans quelques minutes, mais tout de suite, attardons-nous un instant sur l'essentiel des événements en France.
Une semaine d'actualité.
Et la France, d'abord pour parler de François Fillon, le rapport de la police concernant l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse Pénélope a été remis mercredi au parquet national financier qui n'envisage pas en l'état de classement sans suite, annonce un communiqué de cette instance Alice Posicki.
Au terme de son enquête, deux choix s'offriront au parquet national financier. Il pourra décider de citer les protagonistes devant un tribunal correctionnel ou ouvrir une information judiciaire et confier le dossier à des juges d'instruction, les seuls à pouvoir prononcer d'éventuelles mises en examen. Après 3 semaines d'enquête, le PNF n'a pas failli à sa réputation d'agir rapidement. Les auditions se sont succédées. Les enquêteurs ont déjà entendu les époux Fillon, 2 de leurs enfants, Charles et Marie, pour leurs emplois d'assistants parlementaires auprès de leur père. Ils ont également auditionné le suppléant de François Fillon, Marc Joulot, ainsi que plusieurs de leurs anciens collaborateurs. L'enquête s'est aussi penchée sur l'activité de Madame Fillon en tant que salariée de la revue des Deux Mondes. Là aussi, les protagonistes ont été entendus. La police a finalement remis son premier rapport au parquet ce mercredi. Conclusion du procureur Eliane Houlette, les nombreux éléments ne permettent pas d'envisager en l'état un classement sans suite. Les avocats du couple Fillon ont déjà réagi, ils conservent leur ligne de défense. Selon eux, cette enquête est illégale car elle n'entre pas dans le champ de compétences du PNF.
Cette épée de Damoclès qui pèse donc sur François Fillon accentue le désarroi d'une grande partie des électeurs de droite. Bruno Faure en a rencontré quelques-uns jeudi.
Je m'appelle Gérard Branson, je suis retraité depuis 5 ans et j'ai toujours voté à droite.
Gérard nous montre même sa carte, Les Républicains, mais aujourd'hui, il est déçu par le candidat de son camp.
C'est lamentable, mais il va rester.
Alain, lui, a 71 ans, ancien chef d'entreprise, il a voté Fillon à la primaire et lui aussi a pris un gros coup sur la tête.
Il y a le montant, surtout, le temps de réaction qui a été très lent. Et ce qui m'a choqué encore plus, je trouve, c'est la rémunération de ses 2 enfants. 3 500 euros à titre de stagiaire. Il a voulu jouer le chevalier blanc. Il s'est planté. Il aurait mieux fait de rien dire à ce moment-là. Peut-être que ça serait mieux passé. Mais il a voulu jouer monsieur propre. Et il n'est pas propre. Et on ne lui demande pas un monsieur propre. On demande un président efficace. Mais s'il commence déjà à me raconter des salades, c'est là que j'ai le doute.
Alain, élevé au gaullisme, dit qu'il a connu les belles années de la France, mais ne veut pas laisser un champ de ruines.
Quand j'observe aujourd'hui au niveau de mes enfants, de mes petits-enfants, je me dis quand même qu'on est en train de ramener toute cette génération dans une sacrée cagade politique. Je trouve que avec les messages de Macron, c'est une vision qu'il propose.
Gérard, lui aussi, voit chez Macron une démarche nouvelle.
Il vient prendre des idées chez nous, contrairement à Fillon. Fillon a dit qu'il l'avait fait, mais tout compte fait sa loi sur la sécu, s'il avait vraiment rencontré du monde, il ne l'aurait pas sorti. Parce que le lendemain, 86% était contre.
Alain n'est pas encore sûr de voter Macron. Il a ses chances, dit Gérard, s'il n'est pas pourri par le bashing des journalistes.
Ah, le bashing des journalistes pris comme cible par les militants. Je ne vais pas vous demander si vous croyez en la vision de Emmanuel Macron, Oriane Zera. Quel est votre sentiment, vous qui voyez finalement les choses de loin, parce que vous voyagez constamment sur ce climat en France aujourd'hui?
Alors, je suis assez désemparée, en fait. Je pense que c'est le mot qui résume le mieux le sentiment que j'éprouve. Alors, le fait d'habiter à l'étranger ou d'être au loin ne me dédouane pas, j'allais dire, d'une responsabilité citoyenne, enfin, en tout cas, d'un intérêt.
Est-ce que vous allez voter, j'imagine?
Je vais faire une procuration parce que je sais contre qui je vais voter. Je ne pense pas voter pour quelqu'un. Enfin, bien sûr, il faudra voter pour quelqu'un, mais en fait, le sentiment sera plutôt de voter contre quelques-uns que pour quelqu'un.
Ceci dit, ce qui se passe en France se passe aussi dans d'autres pays. Le climat politique dans d'autres pays n'est pas non plus...
Très très gai, non.
Très sain.
Non. En Inde, aux États-Unis.
Alors, puisque vous parlez de l'Inde, on va repartir en France dans un instant. Je voudrais que vous nous lisiez quelques lignes d'une de vos nouvelles, de vos périples qui se trouvent dans votre livre.
D'accord. Alors, c'est une nouvelle qui s'appelle Assoiffée. J'avais lu quelque part que Indian Railways était le plus grand employeur du monde. Grand bien lui fasse, avais-je pensé en cherchant vainement un contrôleur sitôt monté dans le train. Qu'est-ce qu'il m'avait pris de prendre un billet en cher car, voiture assise, alors que le voyage devait durer à peu près 24 heures. J'avais sans doute auguré que si les Indiens pouvaient le faire, je pourrais le faire aussi. Grossière erreur. Dès les premières minutes, je compris que ma capacité à résister à la dureté des sièges, à la chaleur tropicale, aux odeurs de transpiration, aux effluves de curry, de cumin, de fruits avariés, de beurre rance et de vomi, aux émanations indéfinies, aux cris des enfants, aux pleurnichements des bébés, aux raclements de gorge des vieux, aux reniflements des uns, aux crachats des autres, était bien au-deçà de celle de mes compagnons de route.
Dites-moi, vous êtes mise à l'épreuve. C'est ça aussi la vie de voyageuse.
Oui, mais c'est une belle épreuve. Au bout du compte, c'est toujours une belle épreuve.
Vous avez voulu tenter l'expérience, en tout cas.
Le train en Inde est une véritable expérience. C'est une aventure en soi.
Oui. Alors, on va retourner en France. J'aime bien que nous fassions des allers-retours dans cette émission et continuer à parler de la campagne présidentielle. Avec une question, y aura-t-il une candidature unique de la gauche à l'élection présidentielle? Rien n'est moins sûr. En tout cas, du côté de Jean-Luc Mélenchon, rien ne presse. Et s'il n'y a qu'un seul candidat, ce sera lui. Il l'a dit mercredi à Strasbourg. Reportage d'Anthony Latier.
Jean-Luc Mélenchon veut discuter avec Benoît Hamon, mais il n'est pas disponible tout de suite.
Je propose un rendez-vous la semaine prochaine, soit vendredi, soit samedi, soit dimanche.
Et le candidat de la France Insoumise met en garde le vainqueur de la primaire de la gauche.
Je suis prêt à faire confiance, mais cette fois-ci, il y a une chose qui doit être bien claire. On ne me refera pas une deuxième fois le coup du discours du Bourget.
Des discussions, en tout cas, attendues par les sympathisants.
Les personnes qui partagent les mêmes valeurs ont intérêt à se regrouper autour de nous, tout à fait.
Il faut parler ensemble, oui. On n'est pas dans une période politique d'avoir le luxe de se dire on se parle pas parce qu'on n'est pas d'accord sur des points et des virgules. Après, comme dit, c'est sur du contenu politique extrêmement clair.
Discuter du projet, oui, mais de sa candidature, non, ce sera la sienne. Et Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi.
Parce que quand je vous dis il nous faut une garantie, la garantie que cette fois-ci, ce qui aura été signé sera tenu. Mais qui peut être cette garantie ? Sinon nous.
Jean-Luc Mélenchon entrouvre la porte des négociations, mais pose ses conditions.
Et les discussions ont d'ailleurs commencé. Pendant ce temps-là, Benoît Hamon, le candidat des socialistes, mène une campagne discrète, avec entre autres un voyage au Portugal, en ce moment même, Guillaume Nodin.
Il est discret, Benoît Hamon, depuis qu'il a été investi candidat par le Parti Socialiste, certes durant un week-end politique chargé et très concurrentiel. On ne l'a pas vu prononcer d'autres grands discours, ni tenir de grandes réunions publiques. Il a été vu une nuit dans le métro, à l'aube sur un marché, dans une ferme bio avec un agneau dans les bras, et un peu dans les médias, mais il n'occupe pas vraiment l'espace. Il a par exemple été assez peu audible sur l'arrestation violente du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois, et sur les violences qui l'ont suivi. Il préfère creuser son sillon et travailler les thèmes qui ont marqué sa campagne des primaires. Des thèmes qui, il en est persuadé, intéressent les électeurs de gauche, car c'est à eux qu'il s'adresse d'abord, et notamment à ceux tentés par Jean-Luc Mélenchon, lequel n'a pas du tout l'intention de s'effacer. Ce voyage au Portugal, où le gouvernement est dirigé par une coalition de gauche plurielle, c'est une façon de leur parler, de leur dire que l'union est possible, l'objectif étant toujours le même, rassembler à gauche, un exercice effectué sous l'œil soupçonneux des tenants de la gauche de gouvernement, inquiets de voir leur électorat tenté par l'alternative Macron.
D'ici avril, la campagne présidentielle sera-t-elle parasitée par des attaques informatiques, par des hackers russes comme aux États-Unis? En tout cas, François Hollande a demandé que soient prises des mesures de protection. Marina Melzarek.
À l'Élysée, le chef de l'État ne dit pas combien d'argent il prévoit de dépenser pour ce nouveau bouclier. Il fait confiance à son ministre de la Défense, un connaisseur capable de différencier et de budgéter les menaces. En gros, il en existe trois. Le vol des données confidentielles pour un parti politique, ce sont par exemple des devis, des documents en préparation, voire des données personnelles de sympathisants. Le piratage peut aussi être une saturation des réseaux, donc un blocage complet des machines, ou encore de la fausse propagande, des rumeurs lancées sur Internet contre un candidat qui lui font passer plus de temps à démentir qu'à se concentrer sur son programme. Comme les États-Unis et les autres pays européens, la France s'est menacée et contrairement à nos voisins britanniques, les Français ont tardé à prendre en compte la gravité du dossier. Mais depuis un an, les partis politiques, les entreprises mais aussi les administrations de France sont invités à organiser des séminaires pour leur personnel. Ces stages destinés à donner de nouveaux réflexes vis-à-vis des mots de passe ou des manipulations de son ordinateur figureront parmi les propositions que le gouvernement attend. Y seront aussi mentionnés les cybersoldats, une première école existe en Bretagne depuis 10 ans. Une autre vient d'être créée sous l'égide du chef des armées. 2600 jeunes recrues y seront formés avec la sortie des premières promotions d'ici 2019.
Emmanuel Macron accuse l'Ukraine de mener des attaques informatiques contre le site de sa campagne. Oriane Zera, je voudrais qu'on reparte en Inde. On continue toujours à faire ces voyages entre la France et d'autres pays du monde. L'actualité cette semaine, une actualité qui est assez légère, quoique. En Inde, c'est la décision qu'a prise une proposition de loi d'une députée du Congrès, d'ailleurs, donc dans l'opposition, de demander que les Indiens réduisent les fastes de leur mariage. Vous avez, vous, assisté à un mariage en Inde. Il n'est pas rare de voir une famille urbaine aisée ainsi dépenser au moins 75 000 dollars dans des réjouissances, d'inviter des milliers de personnes pour plusieurs jours dans des célébrations qui sont mirifiques.
Oui, mais le mariage reste un des événements, si ce n'est l'événement le plus important dans une famille. Et oui, des familles s'endettent pour des années et des années pour un mariage.
Et quand on parle de luxe, c'est vraiment le luxe.
C'est alors évidemment après ça dépend des classes sociales et des castes, mais le mariage dans n'importe quel cas, c'est aussi une façon de montrer à ses voisins, à sa famille, au village, à la ville, qu'on est capable, qu'on a les moyens d'inviter, de bien recevoir et ouais. Voilà, et de célébrer.
Et cette députée voudrait que l'argent prélevé sur les plus riches serve à financer les mariages des plus pauvres.
Oui, je ne suis pas sûre que les castes les plus riches en Inde apprécieront, mais oui, ça serait une bonne idée de partage.
Alors, dans votre livre, il y a une petite nouvelle, un court texte qui m'a intrigué, qui parle de Mein Kampf en vente libre n'importe où en Inde.
Oui, depuis des années, j'avais été...
Et un livre totalement banalisé.
Banalisé. Alors moi, j'ai appelé en fait cette nouvelle le triomphe de l'ignorance, parce que...
Vous dites, il est disposé à la vue de tous, au rayon histoire, entre le journal d'Anne Frank et une biographie de Napoléon. Je le montre au vendeur, peinant à réprimer un rictus de dégoût.
Oui, on le trouve en fait dans les librairies, au rayon histoire, mais on le trouve aussi chez les vendeurs de rue, en fait, qui ont des draps sur lesquels sont disposés des livres, et immanquablement... Mein Kampf y trône. Ça m'avait énormément choqué lors de mon premier voyage en Inde il y a 15 ans, 16 ans de ça. Ça continue à me choquer. Enfin, je peux dire que je me suis habituée à voir Mein Kampf.
Oui, parce que le Mein Kampf est aussi vendu, hélas, ça c'est un débat ou pas en France ou en Allemagne d'ailleurs aussi, mais accompagné d'un éclairage, d'une mise en perspective historique. Là, c'est pas du tout le cas. Et le livre est vendu sans d'ailleurs savoir.
C'est pas le cas en fait, parce que. Il y a aucune connaissance historique pour la plupart, enfin à part quelques personnes savent, mais en fait les vendeurs souvent ne savent pas ce qu'ils vendent, donc ils n'ont aucune connaissance de l'histoire en Europe, ou eux ce qu'ils vont en fait, Mein Kampf pour eux ça serait un manuel ou un guide pour réussir en tant que chef d'entreprise.
C'est ça qui est effectivement, c'est ça que vous expliquez très bien dans ce texte.
Ouais, c'est ça qui est d'autant plus choquant. Ta ta din ta 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 din ta tum krtakada ta ta din ta patakada din ta tum krtakada krtang ta krtakada ta krtakada dikketak ta di ki ta dum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum ta ti ki ta tum. Pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, vous pouvez aussi nous écrire à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue aujourd'hui Juan à Buenos Aires, un salut à Sakoro à Bamako. Je crains que mon pays ne soit un Afghanistan à cause de la montée en puissance des djihadistes, écrit-il. Bonjour à Diouf à Mbour au Sénégal, à Oussemou à Saint-Louis du Sénégal, à Ali à Dakar, à Diémé, à Djilongia, au sud du Sénégal. C'est une spéciale Sénégal en ce qui concerne la dédicace. Enfin, un salut à José Lito, à Lomé.
Une semaine d'actualité.
Direction l'Afrique maintenant, donc Oriane Zera, d'abord la France et l'Afrique en quelque sorte, avec des propos remarqués d'Emmanuel Macron, encore lui, sur la colonisation française, crime contre l'humanité, dit-il. Une polémique a été déclenchée à Alger mercredi, Leïla Berhato.
En 2012, lors de son voyage à Alger, François Hollande annonce un nouvel âge entre la France et l'Algérie. Il veut parler de vérité, mais refuse de faire repentance ou de présenter des excuses. Au cours du mandat, il y a pourtant des gestes symboliques, comme la visite du secrétaire d'État aux anciens combattants pour la commémoration des massacres de Sétif. Mais la déclaration de Emmanuel Macron à la télévision algérienne Chourouk TV va beaucoup plus loin.
La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Il y a eu des crimes terribles, il y a eu de la torture, il y a eu de la barbarie, parce que la colonisation est un acte de domination et de non-reconnaissance de l'autonomie d'un peuple. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on tombe, tout en reconnaissant ce crime, dans la culture de la culpabilisation sur laquelle on ne construit rien.
Au mois de novembre, pourtant, dans une interview, Emmanuel Macron affirmait qu'il y avait des éléments de civilisation dans la colonisation.
Rendons-nous maintenant en Guinée où les enseignants étaient en grève ces derniers jours. Coralie Pierret, notre correspondante à Conakry, a rencontré quelques-uns d'entre eux.
Au premier étage d'un immeuble vétuste hérité de la colonisation, Mohamed Diallo entre dans son ancien logement. Il est professeur de biologie depuis 10 ans. Il a vécu plusieurs années dans ce vieil appartement.
Regardez, il n'y a même pas de douche. Je suis parti m'endetter à la banque pour trouver un logement à 8 millions et quelques. Chaque mois maintenant, on va me prélever, ça me restera combien? Est-ce que le restant va suffire pour entretenir ma famille, ma santé et même la nourriture? Il faut trouver d'autres boulots, aller dans les privés pour essayer de joindre les deux bouts parce que le salaire est minable.
Actuellement, cet enseignant est payé 1 900 000 francs guinéens, soit un peu moins de 200 euros par mois.
Un sac de riz coûte 250 000. Et le marché est cher, c'est pas facile. Il peut enseigner 30 ans et te retrouver encore sans rien.
Assis en face de Mohamed, son ami Idrissa Camara, professeur de géographie, il fustige l'organisation de la fonction publique car aucun plan de carrière n'est possible.
On se bat pour préparer l'avenir des enfants guinéens et combat que nous sommes au bas de l'aisselle. Vraiment, ça peut mettre en colère.
Depuis mardi, toutes les écoles du pays sont fermées. Les cours reprendront à la fin des négociations avec les syndicats, a indiqué le gouvernement.
Et terminons ce voyage africain au Soudan du Sud qui inquiète le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Olivier Roger nous a expliqué pourquoi.
C'est un rapport qui devait rester confidentiel et dans lequel Antonio Guterres ne s'embarrasse pas de langue de bois pour parler de la réalité au Soudan du Sud. La situation sécuritaire continue de se détériorer et les conséquences atteignent des proportions catastrophiques pour les civils, écrit le secrétaire général de l'ONU. Des civils qui fuient les villages alors que le risque d'atrocités de masse est réel, avertit Guterres. Qui est responsable de cette situation affectant les trois régions de l'Équateur et celle du Haut-Nil? Toutes les parties en conflit, souligne le numéro 1 des Nations Unies, mais en particulier l'armée du président Salva Kiir. Autre danger souligné par Guterres, la montée des milices, soutenues ou non par le pouvoir, est en train de provoquer une fragmentation du territoire, territoire qui risque d'échapper à tout contrôle gouvernemental pour les années à venir. L'ONU redoute donc une autodestruction du pays. Que peut-elle faire? La question se pose. Guterres rappelle que son organisation dispose de 13 000 casques bleus dans le pays, mais ses soldats sont souvent empêchés de mener à bien leur mission par les forces en présence. Quant au Conseil de sécurité, il est divisé. En décembre, les États-Unis ne sont pas parvenus à faire adopter le principe d'un embargo sur les armes.
Conseil de sécurité qui surveille aussi la situation en Inde, au Pakistan et en Afghanistan, évidemment. Et il faut rappeler qu'il y a toujours une force de casque bleu à la frontière du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, zone tampon, zone de crise depuis des décennies, Oriane Zera. Je voudrais qu'on dise un mot sur le livre que vous aviez écrit précédemment, qui a 4 ans maintenant. Oui. Là, il s'agissait de flânerie au Pakistan.
Oui, une flâneuse au Pakistan. J'ai rétabli l'équilibre. J'ai écrit un premier livre sur le Pakistan et le deuxième est sur l'Inde.
Oui. C'était la même démarche. C'était le Pakistan au quotidien.
Oui, c'était un carnet de voyage. Donc c'était moi voyageant en tant que femme seule au Pakistan. Et puis c'était aussi une déclaration d'amour à ce pays qui me touche et qui a malheureusement tellement mauvaise presse. Autant l'Afghanistan peut avoir chez les gens un côté romantique, romanesque, nourri par Kessel. Ouais. Et autre temps, malheureusement, le Pakistan a une image vraiment très très sombre et très noire auprès de tout le monde.
C'est un des pays du monde le plus touché par le terrorisme, notamment.
Oui,
les explosions, les attentats.
Alors,
on l'a vu d'ailleurs cette semaine
encore. Oui, encore une fois, c'est une réalité. Après, c'est aussi le pays au monde où il y a les plus hauts sommets après l'Everest. Donc, c'est un pays de montagnes magnifiques. C'est un pays où les gens sont d'une hospitalité précieuse. Et voilà, c'est aussi un très très beau pays et qui a beaucoup beaucoup de richesses.
Alors là, vous partez sans savoir quand vous viendrez en France. Je crois que c'est votre façon de faire. Là aussi, pour voyager, pour prendre des photos, pour prendre des notes, pour faire des articles.
Oui, je prends toujours un aller simple, en fait. Je ne prends jamais de billet de retour. Et les rares fois où j'ai pris un billet de retour, à la dernière minute, je changeais la date de mon retour. Donc, j'ai abandonné l'idée de prendre des allers-retours. Ouais. Et oui, je pars avec mon appareil, avec des envies et des idées d'écriture. Je pense que le prochain écrit, d'ailleurs, je ne pense pas, se passera en Afghanistan.
Pourquoi ?
J'ai besoin d'un temps. Et tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai pu connaître et apprendre en Afghanistan, maintenant, je sens le besoin de le coucher sur du papier et d'écrire. Donc voilà, je m'y suis mise, j'ai commencé.
Et quand vous écoutez, comme dans cette émission, toutes les nouvelles du monde, les mauvaises nouvelles venues de partout, parce qu'hélas, nous parlons souvent que de ce qui ne va pas, vous avez l'impression de vous, dans vos voyages, de vivre dans un autre monde, de voir un autre monde ?
Alors, je ne suis pas naïve, donc je sais, je connais la réalité politique des pays dans lesquels je voyage, mais je cultive une... je sais pas si c'est de la naïveté, mais en tout cas une sorte d'espoir dans l'humanité qui est nourrie par les rencontres que je fais au fil de mes voyages. Voilà. Après, je sais très bien. Enfin, je lis énormément sur les pays dans lesquels je vais, donc je connais la situation. J'y vais pas les yeux fermés. Mais en fait, j'ai la chance, et je pense que j'ai une bonne étoile qui s'allume quand je commence à voyager, de voir l'autre côté des choses.
Ouais. Dans le livre, par exemple, vous parlez des dieux, la place des dieux, on ne les compte plus en Inde ?
On ne les compte plus. On a l'habitude de dire qu'ils sont 33 millions.
Au moins,
33 millions. Mais je pense que c'est l'infini.
Et vous sentez la population, en tout cas la population que vous voyez, que vous côtoyez depuis que vous êtes dans ce pays, toujours aussi férue de religion, ou plus d'ailleurs qu'avant ? Phénomène religieux accentué ou pas ?
Les religions, sont vraiment très présentes en Inde. Elles font vraiment partie du quotidien. Est-ce que je la ressens plus maintenant qu'il y a quelques années ? Non. Enfin, moi, j'ai pas eu dans mon expérience cette impression.
Mais en tout cas, à chaque fois que vous arrivez en Inde, vous vous en prenez plein les yeux et les oreilles, si vous me permettez l'expression. Vous dites, à chaque fois que j'arrive, j'ai le vertige.
Ouais, c'est un pays qui donne le vertige, effectivement.
Merci Oriane Zera, votre livre s'intitule Chroniques indiennes, il est publié aux éditions Les Perséides. Bon voyage, bon vent.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, une émission que vous pouvez podcaster sur notre site rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons de Georges Samprin, l'écrivain et homme engagé, avec Soledad Fox qui vient de publier une biographie de cet homme, figure de proue de l'intelligentsia parisienne des années 80-90. Demain dimanche, 17h10 à Paris, une heure plus tôt en Afrique. Et on se quitte avec un hommage, un clin d'œil à Jarreau qui nous a quitté dimanche, le maître du swing, avec un de ses grands succès, Roof Garden. J'en profite pour vous dire que notre ami Joe Farmer consacrera une émission spéciale à Al Jarreau tout à l'heure à 14h33 heure de Paris pour être précis. Al Jarreau donc dans un instant. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.
Musique du monde.